La nationalisation du canal de Suez est devenue un fait accompli. Nos fonds nous reviennent et nous avons 35 millions de livres en actions. Nous construirons ainsi l'industrie égyptienne. Extrait du discours du colonel Gamal Abdel Nasser, le 26 juillet 1956.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En annonçant la nationalisation du canal de Suez, le 26 juillet 1956, le colonel Nasser provoque un séisme politique au Moyen-Orient. Une puissance jusque-là dominée par la puissance britannique se rebelle en annonçant sa prise de décision de nationaliser un canal qui ne lui appartient pas. Comment en est-on arrivé là ? L'Égypte est une ancienne province de l'Empire ottoman, mais depuis les années 1880, elle était progressivement tombée dans l'orbite de l'influence du Royaume-Uni. Elle avait certes obtenu en 1922 son indépendance, mais à vrai dire, la Grande-Bretagne gardait un œil jaloux, puisqu'elle maintenait le long du canal une série de garnisons qui protégeait ainsi les intérêts britanniques et les intérêts de la compagnie franco-britannique qui était chargée de l'entretien et de la gestion du canal. En 1952, la monarchie égyptienne avait été renversée par un coup d'État militaire mené par un groupe d'officiers, dits les officiers libres, parmi lesquels le colonel Nasser. Dans un premier temps, celui-ci était plutôt en retrait, puisque c'était le général Néguib qui était devenu chef du gouvernement, puis finalement président de la République, le 18 juin 1953. Le régime est un régime autoritaire, de type militaire, mais également nationaliste, voulant redonner une fierté au peuple égyptien, et surtout, il a de vastes ambitions politiques et économiques. En juillet 1954, Anglais et Égyptiens avaient signé un accord prévoyant le retrait progressif des troupes britanniques. Il est vrai que Londres, malgré sa volonté de rester une puissance mondiale, avait de plus en plus de difficultés à tenir toutes ses zones habituelles d'influence. Ainsi, le 13 juin 1956, le dernier soldat britannique avait quitté le sol égyptien. Mais alors, comment en est-on arrivé à la question de la nationalisation du canal ? À vrai dire, Nasser, qui a pris le pouvoir en 1954 à la place de Néguib, a de vastes ambitions pour son pays. Il veut en faire une puissance régionale qui compte, et en même temps, il veut industrialiser le pays et également lui donner de très vastes infrastructures. En particulier, il y a un projet d'un gigantesque barrage sur le Nil, le barrage d'Assouan. Seulement, ce projet du barrage d'Assouan coûte 1,3 milliard de dollars. Il est bien évident que l'Égypte n'a pas de quoi payer la construction du barrage. Aussi, Nasser se tourne-t-il vers les banques américaines et vers les gouvernements britanniques et américains pour essayer d'obtenir un financement. Après avoir tergiversé, hésité, finalement les Anglo-Saxons, le 19 juillet 1956, font connaître à Nasser, de manière quelque peu humiliante, le refus du financement du barrage d'Assouan. Celui-ci décide alors de nationaliser le canal, ce qui est annoncé le 26 juillet 1956. Cette annonce, faite à Alexandrie, provoque un délire national en Égypte. Tous les Égyptiens, ou presque, ont le sentiment d'avoir retrouvé un honneur, une fierté que le coup de force du colonel semble ainsi illustrer. Cette décision abrupte du colonel est bien sûr mal reçue à Londres et à Paris, pour plusieurs raisons. D'abord, il est évident que la nationalisation du canal de Suez lèse les intérêts de la compagnie franco-britannique. Normalement, celle-ci avait une concession jusqu'au mois de novembre 1968, et donc cette concession est brutalement rompue de manière unilatérale par le président égyptien. D'autre part, il est vrai aussi que cette décision de Nasser affaiblit le rôle influent de la Grande-Bretagne dans la région. Du côté des Français, il y a une autre raison qui entre en jeu, c'est la guerre d'Algérie. En effet, le colonel Nasser n'a jamais caché sa sympathie pour la cause du FLN et la cause de l'indépendance algérienne, et chacun sait qu'il soutient, y compris par l'envoi d'armes, les hommes du FLN qui luttent contre l'armée française. Ainsi, pour Paris, cette crise donne éventuellement l'occasion de mettre en échec celui qui soutient le FLN. Le 22 octobre 1956, dans le plus grand secret, se réunissent à Sèvres des dirigeants français, britanniques et israéliens. Du côté français, on trouve le président du Conseil, Guy Mollet, accompagné de son ministre des Affaires étrangères, Christian Pinault. La Grande-Bretagne est représentée par le secrétaire au Foreign Office, Selwyn Lloyd. Quant aux Israéliens, la délégation est menée par Ben Gurion lui-même, accompagné du chef d'état-major Moshe Dayan. Les trois alliés prévoient en fait un stratagème pour mettre en échec Nasser. Il est prévu que les Israéliens lancent une attaque dans le Sinaï et que pour, soi-disant, s'interposer entre les combattants, des troupes franco-britanniques seraient parachutées dans la zone du canal pour faire tampon entre Égyptiens et Israéliens. En fait, cette intervention franco-britannique vise surtout à mettre en échec Nasser, voire même à le renverser. L'attaque israélienne est prévue dans la nuit du 29 au 30 octobre 1956. L'offensive attaque Gaza et pénètre dans le Sinaï. Quelques heures plus tard, les gouvernements de Londres et de Paris remettent un ultimatum aux deux belligérants pour arrêter les combats. Ceci ayant continué, eh bien, Paris et Londres décident d'appliquer l'opération prévue, dite l'opération mousquetaire, et donc les 5 et 6 novembre, des milliers de soldats britanniques et français sont parachutés ou débarqués dans la zone du canal. C'est une réussite militaire, parce que malgré la résistance des Égyptiens, les Britanniques et les Français parviennent à contrôler la situation. Mais celle-ci va se compliquer à cause de l'intervention des deux superpuissances, Moscou et Washington. Les Américains sont certes alliés de la France et de la Grande-Bretagne, mais le président Eisenhower, qui est en train de finir sa campagne électorale pour sa réélection à la Maison-Blanche, n'apprécie guère de n'avoir jamais été mis au courant par les Français et les Britanniques. Il ne veut pas voir se ternir la paix au Moyen-Orient par cette espèce de politique de la canonnière. Côté soviétique, Khrouchtchev est tout heureux de dégager sa responsabilité de ce qui se passe en Hongrie où il écrase la résistance anticommuniste au profit d'une crise au Moyen-Orient où il a beau jeu de défendre le petit contre les Britanniques et les Français, les anciennes puissances coloniales de la région. Khrouchtchev menace même, en a-t-il eu jamais l'intention, de bombarder de manière nucléaire Paris et Londres. Cette affaire militaire tourne donc au fiasco politique. En Grande-Bretagne, l'opinion se retourne contre le gouvernement, la livre sterling attaquée sur les marchés s'effondre. Résultat, le Premier ministre Anthony Eden, celui qui avait été le second de Churchill, celui qui avait été l'âme de la résistance à la fin des années 30 et pendant la guerre au nazisme, est obligé de démissionner au mois de janvier 1957. Paris aurait essayé et aurait été tenté de poursuivre quelque peu l'opération, mais trop isolé, le gouvernement français ordonne donc le repli de ses troupes. Ainsi, cette réussite a priori militaire tourne au fiasco politique. Mais les conséquences vont être extrêmement importantes pour l'histoire du Moyen-Orient. D'abord, le canal de Suez va désormais être effectivement géré par l'Égypte. Il faudra attendre le mois d'avril 1957 pour revoir des bateaux dans le canal parce que les Égyptiens avaient obstrué cette voie d'eau en y coulant des navires, qu'il a fallu donc nettoyer. D'autre part, pour tout le monde arabe, Nasser devient un héros, celui qui a osé braver les vieilles puissances coloniales françaises et britanniques et qui a finalement réussi à les tenir en échec. Il devient le porte-parole des masses arabes. Ensuite, autre élément non négligeable, 25 000 juifs que l'on accuse d'être trop attachés à Israël sont expulsés d'Égypte. Enfin, à la différence des Français et des Britanniques qui commencent à s'éclipser de leur domaine du Moyen-Orient, la puissance américaine et la puissance soviétique vont progressivement remplacer les vieilles puissances européennes. Une page s'est tournée au Moyen-Orient.